Kiosque Magazine.
Bienvenue à cette édition de Kiosque Magazine qui traite de la culture et des loisirs. Nous sommes le 5 décembre, je m'appelle Charles Roy et je suis en compagnie de Jennifer Vignery. Bonjour.
Salut Charles, salut à tous.
Aujourd'hui, de quoi est-ce que tu vas nous parler?
Bien, on va commencer en musique avec la découverte d'une chanteuse qui s'appelle Indila et qui va partir à la conquête du Québec.
Oui.
On restera en musique avec le chanteur Patrick Normand qui, lui, est de retour à l'oratoire. Ensuite, on parlera cinéma avec le film Whiplash de Damien Chazelle qui sort en salle présentement. De la comédie musicale The Book of Mormon qui est de passage à Montréal du 2 au 7 décembre. Puis théâtre, des contes urbains sur les planches de la licorne pardon, du 2 au 20 décembre. Et ensuite, on terminera avec l'exposition au Musée national des beaux-arts du Québec qui se consacrera à Riopel.
Demain, le 6 décembre, ce sera la date anniversaire de la tuerie à l'École polytechnique. Et il y aura plusieurs événements pour souligner cette date anniversaire, dont un concert. Il sera question de ça. Aussi, je vous propose, en fait, Philippe Couture d'En Voir nous propose quelques idées cadeaux côté cinéma pour offrir à Noël. Sinon, en cinéma, toujours, le Festival du film français s'expose sur Internet, donc ce sera possible d'y accéder. Je vous en parle plus en détail plus tard. La revue de l'année, Bebaille, c'est une première au Théâtre de la Bordée à Québec. Prisme, c'est un spectacle de danse à la Place des Arts. Et je vous propose quelques sorties en plein air, tout ça dans la région de Québec.
Et donc, on démarre tout de suite cette émission avec Indila, qui part à la conquête du Québec. C'est dans le journal du 3 décembre, le journal 24 heures, et c'est un article qui a été écrit par Marie-Hélène Chartrand.
Mais c'est ça, Indila, moi, je ne la connais pas du
Alors,
tout.
Indila, c'est une chanteuse. Oui, c'est une chanteuse qui est un petit peu plus connue en France et en Europe et qui part essayer de conquérir le Québec et de faire découvrir sa musique.
Ah, mais j'ai
hâte. Et donc, on va tout de suite en parler parce qu'elle a déjà vendu plus de 800 000 copies dans son premier album, Mini World.
Wow.
Et le vidéoclip de sa chanson Dernière danse a été vu plus de 147 millions de fois. Indila est désormais une grande vedette en Europe et elle s'apprête maintenant donc à conquérir le Québec. Elle a été sur la scène de l'Olympia ce mercredi 3 décembre aux côtés de Linda Talley. L'opus propose des compositions aux influences diverses, passant de la musique du monde aux rythmes orientaux et à la pop. En ce sens, Indila cite comme influence musicale autant Michael Jackson que la chanteuse arabe Warda ou encore l'interprète indienne Lata Mangeshkar. Mini World est un album au style inclassable créé par une artiste qui dit avoir des origines indiennes, algériennes et cambodgiennes de cœur. Elle n'a toutefois visité aucun de ces pays, bien que ce soit dans ses plans. Parmi ceux-ci, un en particulier semble particulièrement l'interpeller, l'Inde. J'adore les couleurs, la nourriture, leur façon de chanter, comment la féminité se révèle. Quand je regarde une danseuse indienne, je trouve ça sensuel, féminin, et en même temps, j'aime la pudeur dont elles font preuve, affirme Indila. Dans la même lignée que Lorde, Indila fait partie de ces nouvelles chanteuses pop qui ne mettent pas leur sexualité à l'avant-plan pour se vendre. Quant au titre de ce premier opus, il fait référence à l'unicité du monde intérieur de tout un chacun, et dans ce cas-ci, celui d'Indila. On a chacun notre propre monde, même si on partage le même univers. Je propose le mien, et c'est un endroit où on est tous de grands enfants, où on est tous insouciants, dit-elle. Cette dernière, sereine vis-à-vis de sa nouvelle célébrité.
Mm-hmm.
Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule. C'est le souffle de la mer et la plage qui étend.
C'est l'oiseau qui a chanté
sur le branche du figuier. Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va, le silence qui s'installe. Mais bien vite tu reviens et ma vie reprend son cours.
Et donc c'était Pink Martini avec le premier bonheur. Et tout de suite après, on écoutera Indila pour que vous sachiez un petit peu plus qui c'est.
Ah, c'est
je crois que Charles, toi aussi, on va rester en musique, mais là, ça va être un petit peu sur une affaire un petit peu plus
Oui, sur une toute autre note, oui, en effet. Un quart de siècle, jour pour jour, après l'événement tragique de Polytechnique, la Faculté de musique de l'Université de Montréal rend hommage aux victimes avec le concert « En souvenir d'elles ». Un événement à grand déploiement où 180 choristes et 60 musiciens seront réunis sur scène pour interpréter un requiem allemand de Brahms. C'est Caroline Rangers dans La Presse qui nous en parle. Ça a été paru le 4 décembre, Polytechnique, un concert en souvenir d'elle. Jean-François Rivet, directeur musical de l'Orchestre de l'Université de Montréal, a mis sur pied un programme qu'il souhaite consolateur. Quand on commémore quelque chose d'aussi effrayant, il faut éviter de tomber dans le pathos, dit-il. Un quart de siècle plus tard, on a besoin de consolation. Le requiem de Mozart aurait été à propos, mais c'est trop dramatique, plus violent, ça parle d'enfer. Celui de Brahms est davantage une source de réconfort intangible et spirituel. Je pense que nous, les artistes, on a un devoir de faire en sorte que les gens n'oublient pas, ajoute-il. Parler aux âmes des victimes. Dans ce programme, Jean-François Rivet voulait aussi glorifier la féminité. Il a choisi l'air en écho de Horatio de Noël de Bach. Dans la version originale, la soliste dialogue avec son âme. Pour ce concert, le dialogue aura lieu entre Pascal Beaudoin et ses 14 solistes représentant les 14 victimes de la tuerie. « Quand la tuerie de Polytechnique est arrivée, je n'avais que 10 ans », dit la soprano. Je ne comprenais pas clairement les implications de ce qui s'était passé, mais pour moi, Polytechnique était comme une image noire, une ombre menaçante. Quand je suis arrivé à l'université, je ressentais un pincement au cœur à chaque fois que je passais à côté. En tant que femme, elle trouve important de participer à cette commémoration. Non seulement c'est une belle initiative, mais le choix du répertoire est très approprié. On fait cela dans la douceur. Un requiem qui n'a pas besoin d'être lugubre. Je ne dirais pas que Brahms est léger, mais cette œuvre est porteuse d'espoir. Le concert sera diffusé en direct sur le site icimusique.ca et animé par Françoise Davoine. Et pour ceux qui veulent se déplacer, c'est à la salle Claude Champagne le 6 décembre à 19h30. Aussi, pour ceux qui veulent commémorer ça sur une autre note, au Théâtre Outremont, samedi soir, donc demain aussi à 20h, vous pourrez payer votre entrée. C'est 80$ et l'argent va aller à la coalition pour le contrôle des armes et aussi pour la jury pop qui veulent défendre cette cause-là du contrôle des armes l'appel à la Cour suprême de la décision du gouvernement fédéral. Vous pourrez voir sur les scènes Charles Bois, Joran, Vincent Vallière, Daniel Bélanger et autres. Donc, c'est à surveiller.
On va tout de suite parler de Patrick Normand.
Jennifer, non, il n'y a pas de problème. C'est juste que ce qu'on vient d'entendre, c'est une partie du Requiem. Ça a été très bref, là, mais ça peut vous donner...
C'est vrai, ça donne une idée
de ce concert-là.
Et donc, du coup, je vais enchaîner avec Patrick Normand, qui sera au nombre des artistes qui participeront au 15e concert de Noël de l'Oratoire Saint-Joseph, un Noël étoilé, lequel sera présenté à 3 reprises, les 5 et 6 décembre, histoire de répondre à la forte demande. C'est Guillaume Picard qui nous en parle dans le 24 heures du 1er décembre. Le chanteur country se produira dans la basilique aux côtés de Sœur Angèle, Annie Blanchard, Georgia Fumanti, Maxime Landry, Michel Louvain, René Martel, Michael, Chantal Paris et David Thibault. Des musiciens et les petits chanteurs du Montréal Royal seront aussi de ces célébrations consacrées aux plus belles chansons de Noël. Toutes les générations seront représentées, plusieurs courants musicaux aussi. Des rencontres qu'aime particulièrement Patrick Normand. Je vois ça comme une fête parce qu'on retrouve de bons amis. C'est un rassemblement qui permet d'explorer toutes les aventures ainsi que le miracle de Noël, a dit l'artiste qui fait carrière depuis 45 ans. Il n'y a pas de meilleur endroit que l'oratoire. C'est un lieu plein d'histoires, mythique. Chaque fois que j'y vais, il se passe quelque chose en moi. C'est un lieu rassurant, apaisant. On retrouve quelque chose de notre enfance quand on va dans ces endroits-là, une tranquillité et une paix d'esprit. Je suis très croyant, mais je ne peux pas dire que je sois très pratiquant, a-t-il poursuivi. Patrick Normand s'était produit à l'oratoire en 2008 à l'occasion d'un concert solo. Cette fois, il doit notamment livrer les chansons « Souvenir d'un vieillard » ainsi que « Sonne ta cloche » et « Noël sans fin » avec les petits chanteurs du Mont-Royal. On va s'arranger pour que l'auditoire soit complice de ce moment de bonheur. On veut impliquer les gens et plonger dans la magie du temps des fêtes. Ça va être autant pour nous sur scène que pour l'auditoire, a dit le chanteur de 68 ans qui a lancé cet automne son 29e opus en carrière, en plus de participer à 2 albums hommage, l'un à Michel Louvain et l'autre à Sweet People. Donc les 3 représentations du concert Un Noël étoilé de l'Oratoire Saint-Joseph auront lieu ce vendredi 5 décembre à 20h, ainsi que demain le 6 décembre à 14h30 et à 20h. D'autres informations sont disponibles sur saint-joseph.org.
My French Film Festival. Je ne sais pas si vous connaissez ce festival, mais c'est la 5e édition. Et ce festival est présidé par Michel Gondry, le réalisateur. Et c'est un festival qui, lui, s'expose en ligne. C'est comme ça que ce titre, en tout cas, l'article paru dans Le Devoir, écrit par l'agence France Presse, tout simplement. Oui, c'est paru le 3 décembre dernier à Paris. Pour la 5e année, le My French Film Festival, le festival du film français en ligne, va présenter aux internautes du monde entier, une sélection de 10 courts-métrages récents, français ou belges, des premiers ou deuxièmes films, ainsi que 10 courts-métrages a annoncé mardi Unifrance. L'organisme chargé de la programmation du cinéma français à l'étranger mettra en ligne ses films sous-titrés en 13 langues. C'est du 16 janvier au 16 février, disponible sur la plateforme web et 25 plateformes partenaires selon les territoires, dont iTunes dans plus de 90 pays, a précisé l'organisme. Parallèlement à cette sélection, le festival présentera hors compétition deux films québécois. Un long métrage, Chasse au Godard d'Abitibi, paru en 2013 d'Éric Morin, et un court métrage, Quelqu'un d'extraordinaire, en 2013 aussi, de Monia Chokri. Plusieurs prix seront décernés, dont un après un vote des internautes. Les longs métrages sont gratuits sur certains territoires, l'Amérique latine, la Chine, l'Inde, la Pologne, la Suisse et la Turquie. Donc, pour ceux qui nous écoutent de ces pays-là, vous pourrez les écouter gratuitement, mais pour les autres, ben c'est payant, mais c'est pas très cher, écoutez. Pour l'ensemble du festival, c'est 14 $ pour avoir accès à ces courts-métrages-là et ces longs-métrages. Ou sinon, si vous voulez y aller à l'unité, c'est 2,80 $. La sélection des longs-métrages en compétition comprend Hippocrate de Thomas Litty, succès commercial et critique de la rentrée en France. Aussi, Comme j'ai détesté les maths d'Olivier Payon, Eastern Boys de Robin Campillo, le film belge L'étrange couleur des larmes de ton corps d'Hélène Catet et Mona HH, tirer la langue. Ah oui, et Mona HH, ça fait partie de L'étrange couleur des larmes de ton corps. Et aussi, finalement, le film Tirer la langue, mademoiselle d'Alex Rupert. Et aussi Respire de Mélanie Laurent. En 2014, 4 millions d'internautes à travers le monde, répartis sur 205 pays, avaient pu découvrir la version restaurée des Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, qui a été récompensé de la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1964, Augustine d'Alice Winocourt, ou encore J'enrage de son absence de Sandrine Bonnaire. Soit une fréquentation en hausse de 400% par rapport à celle de 2013. Et c'est à voir selon votre intention à vous de participer à ce film en ligne. Alors pour participer, je le répète, c'est sur plusieurs plateformes, dont celui de iTunes. Et c'est du 16 janvier au 16 février.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour ou bien la
Et donc en tout début d'émission, je vous parlais d'Indila,
oui,
donc qu'on a pu qu'on a pu entendre à l'instant avec son titre Dernière danse.
Oui, c'est ça. Puis tu me racontais qu'en France, cette chanson-là a
succès. Là. Un gros succès, effectivement. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi,
ben
j'adore.
Oui.
Alors, on va parler maintenant cinéma. Dans son terrifiant Whiplash, le réalisateur Damien Chazelle nous offre un regard explosif sur le jazz, évoquant la cruauté des combats auxquels se sont toujours livrés de grands musiciens comme Buddy Rich ou Miles Davis. Donc, l'article s'appelle « Jazz casse-gueule » et ça a été écrit par Michael Olivier Harding dans le journal du Métro. Chers adeptes des fameux questionnaires à la « préférerais-tu », en voici un bon. « Préférerais-tu mourir d'alcoolisme ou de toxicomanie à 30 ans et qu'on se souvienne de toi, ou rendre ton dernier souffle à 90 ans sans passer à l'histoire ?» Aux yeux d'Andrew, Miles Taylor, jeune musicien de 19 ans qui souhaite faire partie des meilleurs batteurs de jazz de sa génération, le premier choix est immensément plus noble. Dans le foudroyant Whiplash du réalisateur et scénariste Damien Chazelle, cet élève acharné d'un conservatoire de Manhattan doit rapidement faire face au harcèlement physique, moral et verbal d'un chef d'orchestre impitoyable qui dit écraser ses élèves afin de les aider à cheminer vers la gloire. Au fil des baguettes brisées, des mains ensanglantées et des regards imprégnés de terreur, ce jazz movie gonflé à bloc tente de sortir de l'éternel dilemme auquel tout artiste est confronté tôt ou tard. Doit-on se donner corps et âme, cumuler les sacrifices et les supplices dans l'espoir d'atteindre une certaine virtuosité dans son art ? Les artistes vivent dans une bulle, mais ils n'ont pas vraiment d'autre choix, nous dit Chazelle, qui a remporté le grand prix du jury ainsi que le prix du public à Sundance pour Whiplash. Tu dois croire que ton art est d'une importance capitale. Sinon, c'est trop difficile. Mais se rendre compte de l'indifférence de ses proches, c'est un réveil assez douloureux. Chazelle, qui a consacré 5 années de sa vie à l'apprentissage de la batterie au sein d'un orchestre de jazz avant de revenir à ses premiers amours, a voulu mettre en image une réalité qu'il ne voyait jamais reflétée au grand écran. Celle des crises d'angoisse et des nausées qui ont marqué son soi-disant épanouissement musical. Le jazz n'est pas perçu comme un art violent ou colérique. Pourtant, il a vu le jour dans une période d'oppression et de désespoir. C'est un genre qui, très tôt, a vu naître toutes sortes de rivalités. Les cutting contests, affrontements entre musiciens et orchestres, ont été aussi décisifs et influents dans l'histoire du jazz que les rap battles pour le hip-hop. Il y avait constamment cette notion de gens qui s'affrontent au moyen de la musique. Pour convaincre ses investisseurs du potentiel d'un portrait de musicien qui s'apparenterait à un film de guerre et dans lequel les instruments remplaceraient les armes à feu, Chazelle a d'abord choisi une scène décisive de son scénario et en a tiré un court-métrage. À la suite de la consécration de ce cours à Sundance en 2013, le cinéaste de 29 ans s'est vu offrir la chance de réaliser en entier le projet, qui puise dans tout les comédies musicales des années 60 et 70, West Side Story, All That Jazz, Cabaret, que dans les classiques de la boxe, comme Raging Bull de Scorsese. D'emblée, notre défi était d'évoquer le même sentiment de peur qu'on retrouve dans un film d'horreur ou un récit de guerre, mais de transposer ces angoisses dans un univers totalement dépourvu d'enjeux de vie ou de mort. Après tout, la pire chose qu'il puisse arriver à un musicien serait de rater une mesure ou de perdre le tempo. Donc comment plonger le spectateur dans l'état d'esprit de ces musiciens compétitifs qui, pour une telle erreur, seraient comparables à la mort avec la décharge d'adrénaline qui accompagne toute situation de danger extrême. Whiplash est en salle dès aujourd'hui.
Maintenant, voici quelques suggestions de Philippe Couture. Peut-être si vous cherchez des idées cadeaux, là, ce serait des films à offrir ou à voir. Il en propose 15 dans son article, mais j'ai pas le temps de vous proposer ces 15 films-là. Donc, je vais lire une première partie, puis la semaine prochaine, si j'ai le temps, j'en lirai d'autres. Alors voici quelques-unes de ses suggestions. 15 films à voir ou à revoir dans Voir. Oui, dans le
journal Voir.
Dans le journal
exactement. Voir,
ouais. C'est paru le 4 décembre dernier. Allez, 1987. À l'instar des American Pie et autres Bring It On de ce monde, le second épisode de la série auto-fictionnelle de Ricardo Troggi mise tout sur les tribulations de l'adolescent moyen qui se croit un peu ringard. Le scénario n'a rien de révolutionnaire et c'est pourtant grâce à ce synopsis banal que se déploie tout le talent de Troggi, un expert dans l'art de magnifier le quotidien par l'humour. Outre le sens du punch indéniable de Troggi, tant sur le plan du montage serré que des bonnes lignes du texte, on se surprend à aimer le film pour le message qu'il porte. Vous voulez qu'on décide de notre avenir à 17 ans, mais pas question d'entrer un bar avant 18 ans, c'était une citation. Ici, le personnage de Ricardo marquait un point. Autre film à voir, Le Grand Cahier. Adaptation attendue du film, du roman, oui, d'Agatha Christophe, célébrée par sa rigueur formelle et son âpreté remuante, Le Grand Cahier reprend notamment sa narration aussi ciselée que détachée en voix off. On y retrouve les jumeaux Klaus et Lucas qui se plieront dans les exercices de discipline, de privation et même de cruauté pour que l'art de la survie devienne à leurs yeux une seconde nature. On se quitte quelques instants pour une pause et on vous revient avec la deuxième partie de cette édition de Kiosque Magazine. À tout de suite.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, la comédie musicale du siècle, c'est le titre que le New York Times et le 24 heures de Montréal donnent à la comédie musicale Book of Mormon, ouais. Qui sera du 2 au 7 décembre à la salle Wilfrid Pelletrière de la Place des Arts.
Rien de moins, hein, la comédie du siècle.
Voilà, alors... Derrière ce succès, les deux créateurs de South Park, Trey Parker et Mark Stone, ainsi que l'auteur de la comédie musicale Avenue Q, Robert Lopez, le trio s'est formé un peu par hasard en réalisant leurs intérêts communs pour la communauté mormone. Derrière sa première présentation sur Broadway en mars 2011, le succès de la production ne se dément pas. Cette dernière met en scène deux missionnaires naïfs et remplis de bonnes intentions, débarquant en Ouganda afin de propager la bonne nouvelle. Le choc culturel est de taille lorsque le tandem est confronté à la dure réalité du pays ravagé par la maladie, la criminalité et la famine. Le mormonisme est une religion polygame créée aux États-Unis au XIXe siècle, s'apparentant au christianisme. On dit de ceux qui la pratiquent qu'ils sont des disciples de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. L'État de l'Utah abrite une grande communauté mormone dont le siège social est d'ailleurs établi à Salt Lake City. Donc The Book of Mormon du 2 au 7 décembre
à
découvrir
oui.
À Place des Arts.
Les rétrospectives théâtrales battent leur plein. Cette année, au Théâtre du Rideau Vert, ce sera la 10e année que la revue sera sur les planches dans le temps des fêtes. Et pour une première fois, au Théâtre de l'Abordée de Québec, vous pourrez voir le Bœuf Bye 14. C'est encore une fois cette rétrospective à la Bye Bye. Et c'est un texte paru dans Le Voir par Émilie Rioux le 4 décembre. Rétrospective corrosive. Un an après avoir créé le très irrévérencieux Gros Show, le collectif du temps qui s'arrête, présente une revue de l'année scénique entièrement conçue par les artistes de la vieille capitale, une première historique qui risque fort d'attirer les curieux. À l'image des revues de fin d'année déjà populaires au petit écran et sur la scène montréalaise, le Bubaï 14 sera une occasion de remonter le temps pour revivre les moments forts de l'année sur lesquels on s'apprête à tourner la page. Dans le cadre ludique d'un spectacle de variété, se succéderont des sketchs sur la politique, incontournable thématique, sur les grands titres de l'actualité locale et nationale qui font jaser, sans épargner les vedettes de l'heure, les émissions du moment, celles d'Éric Salvaille ou de Ricardo, par exemple, et les hits de radio omniprésents. Rire de tout le monde. Il fait nul doute que l'écriture d'un spectacle d'une telle envergure nécessite un travail colossal de longue haleine. Ainsi, la tâche a-t-elle été partagée par les 5 auteurs qui y prêteront leur voix, soit Nicolas Franck Vachon, Monica Pilon, Edwidge Morin, Joël Bourdon et Philippe Durocher. Lucien Ratio adaptant ainsi le rôle du script-éditeur. Sur la scène de l'aborder, le collectif sera appuyé par les ambiances musicales et sonores du multi-instrumentiste Mathieu Campagna. Évidemment, alors que l'année se dessine au fil des pages des journaux locaux, l'équipe doit faire des choix. Y a-t-il des choix difficiles à aborder, des sujets difficiles à aborder? Est-ce plus difficile de parler des individus et des personnalités qui sont plus près de nous? Le but du spectacle, c'est d'essayer de ne pas être simplement méchant, expose le comédien Philippe Durocher. Le défi, c'est surtout de trouver le bon angle pour tirer le côté drôle de toutes sortes de situations et de rire aussi des deux côtés du même événement. On rit de tout le monde, ça, il n'y a pas de doute, ajoute Ratio. On a un numéro sur l'Ebola, poursuit-il, mais on ne rit jamais de la maladie parce que ce n'est pas drôle. On rit de la surpanique que ça crée à Québec, au Québec. Il a fallu trouver la bonne forme, le choix des interprètes et le contexte qui en font un numéro drôle. Le tout en évitant de prendre parti dans une optique de constat et d'autodérision plutôt que de dénonciation ou de critique. D'autre part, une parole particulièrement mordante s'ajoutera à celle des comédiens par l'entremise du travail de Castor Vervaren, sculpteur français ayant analysé l'actualité québécoise pour produire plus d'une douzaine de sculptures s'en inspirant. Le fruit de son travail seront exposés dans le hall du Théâtre de l'Abordé, parallèlement à la représentation du Beubail. Partie de famille. Plus que tout autre spectacle présenté sur les planches cette année, Beubail 14 est un spectacle fabriqué sans prétention, à l'huile de bras qui s'adresse à monsieur madame tout le monde. C'est le mandat de la compagnie de désacraliser le théâtre, de rendre ça accessible, insiste Philippe Durocher, en rappelant le caractère populaire du spectacle de variété. C'est important de se rappeler ce qui s'est passé la dernière année, parce qu'on a la mémoire courte. C'est aussi important de le faire dans le plaisir. La première revue de l'année de la Ville de Québec prendra donc des couleurs de parties de famille et sera un prétexte de rassemblement pour revenir à la source, comme l'exprime Lucien Ratio. Dans le temps des fêtes, ce qu'on aime, c'est se raconter des histoires, se réunir autour de la table et parler un peu de tout. C'est cette ambiance-là qu'on veut recréer, chaleureuse, accueillante et le fun. Le Beubail 14 sera présenté du 11 au 13 décembre, ainsi que les 16, 18, 20 décembre au Théâtre Labordé.
Cruz. das novelas de TV, o que há de ser? Não há letreiro no final pra ver. O meu cabelo insiste a acordar despenteado. Não tenho jacuzzi, nem chuveiro.
On vient d'entendre Ave Cruz de Tchéou. Toujours en théâtre, si les revues de l'année représentent une tradition de théâtrale du temps des fêtes, Jennifer, les contes urbains, eux, aussi présentent une tradition.
Et oui, effectivement. Et donc, ils sont présents depuis le 2 décembre jusqu'au 20 décembre au Théâtre de la Licorne. Mm-hmm. Ils reviennent sur les planches pour une 20e et dernière année. Pour l'occasion, une distribution exclusivement féminine est mise en scène par Brigitte Poupard. C'est la première fois qu'une femme fait la mise en scène en 20 ans, fait remarquer cette dernière. En tout, 8 femmes défileront sur scène pour dire les mots d'auteur en majorité masculin. Parmi celles-ci, la transsexuelle Michèle Blanc fait une première apparition à la fois comme auteur et comédienne. Je trouvais intéressant d'avoir un homme qui est devenu une femme pour élargir le sujet, savoir pour elle ce que ça veut dire être une femme, explique Brigitte Poupard. L'édition 2014 des Contes urbains se veut plus théâtrale que les précédentes. Un conte des premières éditions, Coqueline assure un fil conducteur entre les différentes scènes. Ce texte sert de berceau pour accueillir tous les autres, précise le maître d'œuvre. La scénographie, quant à elle, sera épurée et architecturale. Ce sont des bandes qui se rejoignent à un point précis pour représenter les différentes lignes de vie parallèles, précise-t-elle. Cette dernière affirme travailler les contes comme une succession de courts-métrages. Pour moi, ces 8 courts-métrages en noir et blanc, avec un environnement sonore ressemblant beaucoup plus à celui du cinéma qu'à celui du théâtre, dit Brigitte Poupard. Selon elle, la majorité des contes ont en commun les thèmes du deuil, de la solitude et de la confidence. Initié par Yvan Bienvenu et Stéphane Jacques du théâtre Urbi et Orbi, les contes urbains seront joués pour la dernière fois à la Licorne. L'année prochaine, le théâtre célèbre ses 40 ans et plusieurs changements sont dans les cartes. Les contes se prêtaient plus ou moins bien à ces changements, précise Yvan Bienvenu. Ce n'est toutefois pas la fin des contes, quoiqu'il est trop tôt pour préciser à quel rythme et dans quel lieu les prochaines éditions se tiendront, mais ce qui semble certain, c'est qu'il y aura une prochaine édition.
Bon, à suivre. Un chatoyant ballet de couleurs, c'est ainsi que titre son article Philippe Couture, paru dans Voir le 3 décembre, qui parle de Prisme, un spectacle de danse qui sera jusqu'à demain à la Place des Arts, à la 5e salle de la Place des Arts. Alors voici l'article. Jouant sur la perception et proposant un chatoyant ballet de couleurs dans Prisme, pièce lauréate du prix de la meilleure chorégraphie remis par le Conseil des arts et lettres du Québec, Benoît Lacharme offre une expérience visuelle et sensorielle de haut niveau. Jaune bouillant, vert lime, rouge écarlate, dans Prisme, la scène est baignée de couleurs et les corps sont teintés de lueurs vives. Ce spectacle passionnant, réalisé en étroite collaboration avec la brillante conceptrice d'éclairage Lucie Bazot, interroge des sensations reliées à notre perception des couleurs et la lumière, filtrant ici avec les mystères des interrelations entre les sens et le cerveau. En faisant évoluer les danseurs devant un immense tulle éclairé de couleurs vives, évoluant d'une teinte à l'autre, mais aussi devant des panneaux où d'autres températures de couleurs sont explorées, Benoît Lacharme raconte aussi la perception du corps humain à travers des poses plastiques ou sculpturales qui défient la notion de genre, comme il décortique le muscle et l'ossature, nous les faisant voir dans le détail. Effet d'optique et de lumière concordent à déplacer notre regard et à envisager l'humanité et son environnement à travers un regard neuf et émerveillé, cultivant en nous une vive curiosité pour les phénomènes physiques et mentaux qui influencent notre perception du monde. Parfois proche de l'esthétique très plastique de Robert Wilson, notamment Einstein on the Beach et Péléas et Mélisandre, avec ses compositions visuelles sur fond bleu vif et ses corps raides et marionnettiques, Prism s'amuse aussi à jouer avec la notion d'échelle, cultivant les contrastes entre l'horizontalité et la verticalité. Notre rapport aux couleurs est-il primitif, pulsionnel, ou est-il le fruit d'une macération complexe des ambiances lumineuses de nos cerveaux? Devant toute cette lumière pigmentée, réagissons-nous de manière rudimentaire ou sophistiquée? Le spectacle explore les deux pistes de réponse, invitant d'abord les corps baignés de lumière à des comportements primitifs et les représentant comme des macaques agiles qui s'agrippent, grimpent sur les échafaudages, se suspendent, se raidissent, se courbent ou tentent de toucher les hauteurs avec la prestance du mammifère. À l'opposé, la gestuelle se fera par moments subtils et détaillés, à travers des mouvements amples et plus tard à travers une délicate danse du muscle. La peau frémit et se transforme selon les couleurs projetées sur elle. Notre regard s'y concentre alors que s'y dévoile, par une lumière très localisée, des effets quasi radiographiques, quelques bribes d'ossature en mouvement ou de biceps au travail. Tout cela évoque aussi par moments la quête de transcendance, le désir de sublimation ou d'envol. Que les corps soient portés par l'animalité ou par une énergie plus civilisée, ils évoquent toujours un certain sens du sacré ou du mystique. Ce sera présenté, je le répète, à la 5e salle de la Place des Arts jusqu'à demain 6 décembre. C'est une présentation de Danse Danse et de Montréal Danse. On vient d'entendre Les coloriers de Alex Nevsky au Musée des beaux-arts du Québec. Un grand de chez nous, Riopelle, est exposé, Jennifer.
Oui, effectivement, les différents visages de l'œuvre de Jean-Paul Riopelle n'ont pas fini de révéler leurs secrets. À l'occasion du don d'une nouvelle œuvre monumentale par sa fille Ise et de la publication de deux volumineux ouvrages sur l'artiste et le mouvement automatiste, le Musée national des beaux-arts du Québec a décidé de placer décembre sous le signe de Riopelle. Les musées construisent la mémoire et ils en sont le dépôt aussi.
Wow.
On en voit les deux côtés aujourd'hui. On la construit en acquérant des œuvres et on est un dépôt parce qu'on conserve aussi les archives qui permettent de documenter la carrière des artistes, a lancé mardi la directrice générale du Musée national des beaux-arts du Québec, Lynn Ouellet. L'acquisition par l'institution des plaines du Nouvel Gouache de plus de 4,50 m de long a été l'occasion de renouveler la section des œuvres sur papier de l'exposition Métamorphose consacrée à Riopelle dans le pavillon Charles Bellegré. Ces œuvres fragiles ne peuvent être exposées plus d'un an et celles déjà en place l'étaient depuis février. La nouvelle acquisition, un sans-titre daté de 1976, se déploie comme un grand panorama montrant un arrière-plan coloré et vaporeux, strié de traits noirs qui marque une verticalité. Une pièce à l'esthétique unique dans l'ensemble de l'œuvre de Riopelle, a noté Ise Riopelle. Il existe 3 ou 4 autres petites œuvres dans ce genre, mais c'est tout, a-t-elle précisé. Pour mettre en contexte cette nouvelle acquisition et l'ensemble de l'œuvre de l'artiste, le Musée national des beaux-arts du Québec exhibe jusqu'au 14 décembre quelques raretés dans la rotonde du premier étage du pavillon Gérard Morisset, à côté de la salle où est exposé le monumental « Hommage à Rosa Luxembourg ». On peut y voir 3 sculptures qui ne sont jamais sorties des réserves, ainsi qu'un assortiment d'archives montrant, entre autres, l'œuvre sans titre de 1976 dans l'atelier de Sainte-Marguerite et dans une exposition internationale. Le Musée national des beaux-arts du Québec a aussi profité de l'occasion pour souligner la parution de la traduction française d'Egrégor, un important ouvrage de Ray Ellenwood sur le mouvement automatiste de Montréal et du tome 4 du catalogue raisonné « La mémoire d'un artiste, œuvre par œuvre » de Riopelle. Une entreprise colossale menée par sa fille. Ce n'est pas terminé, il y a 9 tomes et il en reste 4 encore à faire. Dans le prochain, il y aura 1500 reproductions, a expliqué Madame Riopelle. Mais l'important, c'est surtout de la montrer, l'œuvre de Riopelle. Il ne faut pas qu'elle reste dans les réserves.
Le temps file, les amis, et j'aurai pas le temps de lire l'article au complet que je voulais vous lire. C'est « Un hiver bien rempli » écrit par Jean-Sébastien Massicotte dans Le Soleil, mais je vais pouvoir vous en faire quelques bouts. C'est paru le 3 décembre dernier. Il nous propose quelques sorties à faire pour les pas frileux et amateurs de plein air que nous sommes. Premièrement, encore plus de géants. Plus que jamais, la saison froide sera géante pour les courageux qui tentent qui tiennent à rouler même dans la neige et sous zéro. Toujours en montée, la popularité du « fat bike » s'étend davantage. En effet, les vélos de montagne à pneus surdimensionnés, parfaitement adaptés à rouler dans la neige, sont désormais en vente et en location dans les principaux détaillants. Sans compter que de plus en plus de parcs et de centres de plein air les acceptent. Dans la région de Québec, il y a notamment la Vallée Branard. Vous pourrez avoir l'information sur valleybranard.com. Autre activité de plein air, dompter le fleuve et ses glaces. Ça, c'est attachez votre sucre, comme on dit. Si le défi de vivre quelque chose d'unique au monde vous tiraille cet hiver, une sortie guidée en canot à glace est assurément à mettre au calendrier. Il est désormais possible pour le grand public de faire comme les courageux athlètes du circuit québécois de canot sur glace et de se mesurer aux eaux froides du Saint-Laurent. Pour les informations, c'est canotaglacequebec.com. Cascade fabriquée et grimpeur comblé. À Québec, le Québec est une destination de choix pour l'escalade de glace, notamment l'emblématique chute Montmorency qui demeure toujours un endroit de prédilection pour s'initier à l'activité. Pour ceux qui sont prêts à voyager un peu pour jouer des pistolets, c'est pas ça le mot, c'est des piolets, oui, et des crampons. Rivière-du-Loup se démarque depuis quelques hivers avec son parc artificiel en pleine ville. En effet, un système de canalisation et de pompe à eau au sommet de la paroi assure l'englacement d'un vaste terrain de jeu vertical. Une vingtaine de voies de 35 à 55 mètres sont à grimper. Et finalement, pour ceux que le froid de l'hiver enchante moins, il y a encore moyen de garder le sourire et de s'amuser. Il suffit de simuler. Ben, en effet, en attendant le retour du printemps, il est possible de faire du sport en tout confort à l'intérieur. Et l'offre se diversifie et s'améliore. Il y a notamment des parois d'escalade, mais aussi, ça a attiré mon attention, le vélo virtuel qui est désormais une réalité. Comme chez Vélo Concept Performance à Québec, où il est possible de rouler sur une base d'entraînement fixe, tandis que sur les écrans défilent des parcours du Tour de France et du Giro. Pour ceux que ça intéresse, veloconceptperformance.com. Allons-y maintenant de quelques brèves, étant donné que l'émission s'achève.
Et oui, alors Mandela est au musée Grévin. Un an après sa disparition, le grand Nelson Mandela fait son apparition chez Grévin Montréal, où sa statue de cire a été dévoilée jeudi soir. L'ancien président de l'Afrique du Sud, qui a lutté activement contre la ségrégation raciale dans son pays, ce qu'on a appelé l'apartheid, est décédé le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. C'était un incontournable pour Grévin Montréal d'avoir la représentation en cire de ce grand homme. Nous contribuons ainsi au devoir de mémoire pour les générations futures et nous en sommes très fiers, a dit Philippe Berthoud, directeur général de l'institution qui regroupe plus de 120 autres personnalités québécoises, canadiennes et internationales.
Intéressant. La carte blanche à Martin Léon. On avait adoré le spectacle aux 4 sous et on le redécouvre avec plaisir sur DVD. Alors, ça s'appelle La carte blanche à Martin Léon, construite autour des chansons de son album Les Atomes, notamment. Le spectacle Attentat. Il est trop rare de se mettre dans la poésie, de la poésie plein les yeux et les oreilles. Avec Attentat, où s'imprègnent des mots et des poètes d'ici, d'hier et d'aujourd'hui, interprété et mis en scène de façon originale et actuelle, on y vit la poésie, sorte de carcan de papier, et on se l'approprie. C'est au Théâtre de 4 sous jusqu'au 17 décembre. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je remercie Rémi Hermoso à la régie. Merci Jennifer.
Merci Charles et merci à vous de nous avoir écoutés.
À la semaine prochaine. Bonne journée.
Au revoir.